multinationale avec des gens de langue allemande ici à l'ouest, dans ce qui est aujourd'hui l'Autriche, des Tchèques et des Slovaques ici, des Polonais, des Ukrainiens, des Hongrois, des Roumains, des Croates, des Serbes et les Bosniaques. Donc vous voyez, et même des Italiens. Tous ces peuples appartenaient à l'Empire d'Autriche. Et donc, mes parents sont nés, mon père en Galicie orientale et ma mère en Bucovine, qui est la province à côté. Dans cette Galicie, la population était à environ 20% juive. C'était une la population générale était constituée de moitié de 40% polonais, 40% ukrainiens et 20% de juifs à peu près, surtout répartis dans des petits bourgs à la campagne. La famille de mes parents était donc installée en Galicie orientale, traditionnellement de père en fils, aussi bien du côté de mon père que de ma mère, dans la profession du négoce du bois, du bois de sillage. Ça, c'était donc le départ, le berceau de la famille, lorsqu'a éclaté la Première Guerre mondiale en 1914. Dans cette Première Guerre mondiale, il y avait deux blocs opposés. D'un côté, l'Allemagne et l'Empire d'Autriche, qu'on appelait d'Autriche-Hongrie. Et en face, il y avait la France, la Grande-Bretagne et la Russie, et l'Italie. Donc lorsque la guerre a éclaté, dans un premier temps, les armées russes, tsaristes, ont pris l'offensive et ont commencé à attaquer ce qui était la Galicie. Et à ce moment-là, la famille de mon père, comme la famille de ma mère, fuyant les combats, sont allés se réfugier à la capitale, c'est-à-dire à Vienne, qui est ici. Voilà comment la famille s'est retrouvée à Vienne. La famille de mon père à Vienne, la famille de ma mère en Bohême, c'est-à-dire dans l'actuelle Tchéquie. Mon père avait fait toutes ses études donc en Galicie, en langue polonaise, tout en menant parallèlement des études judaïques en hébreu et en yiddish. Arrivé à Vienne, il a dû se mettre à l'allemand. Il a passé son baccalauréat. Et à l'âge de 18 ans, en 1915, il a été mobilisé. Il est parti à la guerre comme sous-lieutenant d'artillerie sur le front serbe. Mon père a donc fait toute la guerre dans l'armée impériale. Quand la guerre a été terminée, mais démobilisé, il est retourné à Vienne pour y faire ses études supérieures. Il a fait d'abord des études de droit et ensuite une grande école, la Hochschule für Welthandel, l'équivalent des hautes études commerciales en France. Quand il a terminé ses études, il a tout de suite commencé à travailler, c'est-à-dire à se faire embaucher dans une entreprise de négoce de bois, puisque c'était le métier de la famille depuis toujours, une entreprise qui faisait du négoce de bois, de l'exportation de bois d'Autriche, surtout vers la France. Donc les premiers contacts qu'a eu mon père avec la France ont été des contacts professionnels dès le début de sa carrière. En 1923, mes parents se sont mariés. Mes parents se connaissaient depuis toujours puisqu'ils étaient cousins germains. Donc mes parents se sont mariés en 1923 et un an plus tard naissait ma sœur aînée donc, Anna, qui est née en 1924, en novembre 1924. Mon père a commencé à travailler, il a été amené très tôt à voyager en France pour aller visiter des clients. Ce qui lui a fait connaître la France et aimer la France. Peu à peu, le couple s'est installé. Mon père a fait des progrès dans son métier. Il a été promu dans l'entreprise. Il a continué donc à faire du commerce de bois, surtout d'exportation vers la France. Tout cela démarrait bien dans la Vienne de l'entre-deux-guerres. Il faut dire que cette Vienne de l'entre-deux-guerres, après la Première Guerre mondiale, ça a changé complètement. L'Empire austro-hongrois que vous voyez là a été démantelé par le traité de Saint-Germain de 1919 et démantelé en... Vous le voyez ici en jaune, l'Autriche. La petite Autriche qui restait de ce grand empire, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, une partie est partie vers la Yougoslavie, une partie vers l'Italie, une partie a été annexée par la Roumanie, et toute la Galicie a été rattachée à la Pologne. La Pologne, pays qui avait disparu depuis 1815, puisque le traité de Vienne avait partagé la Pologne entre la Russie, l'Autriche et l'Allemagne, ou du moins et la Prusse à l'époque. Donc la Pologne a été reconstituée par le traité de Trianon, et la Galicie, qui était la partie entièrement auparavant autrichienne de la Pologne, a été rattachée à la Pologne. Par le traité de Trianon, il a été stipulé que tous les anciens sujets austro-hongrois nés sur le territoire actuellement polonais devenaient automatiquement citoyens polonais. Et c'est ainsi que mes parents, ma sœur, moi je n'étais pas né encore, sont devenus du jour au lendemain citoyens polonais, sans éprouver le besoin de demander la nationalité autrichienne, parce que un passeport polonais ou un passeport autrichien, ça se valait, on voyageait de la même façon dans les deux cas. Donc, par manque d'initiative particulière, la famille est restée polonaise. Et comme en Autriche, c'est le droit du sol, et c'est le droit du sang, et non pas le droit du sol qui détermine la nationalité, lorsque moi je suis né des années plus tard, en 1936, à Vienne, de parents polonais, j'ai été polonais à ma naissance, et sans jamais avoir mis les pieds en Pologne. Ça, c'est pour la petite histoire. Par contre, ceux qui le voulaient pouvaient demander la nationalité autrichienne et l'obtenir, ce qui a été le cas notamment d'un de mes oncles, le frère aîné de ma mère, et qui, avec sa famille, est devenu autrichien. Ça, vous verrez que ça aura de l'importance par la suite. Donc, mes parents et ma sœur commencent leur vie à Vienne. Mon père travaille. Tout cela va très bien jusqu'à 1929. Vous avez sûrement entendu parler de la crise mondiale de 1929-30, qui a été une crise épouvantable, pire que toutes les crises qu'on a connues depuis, y compris celle qu'on a connue récemment. La crise mondiale de 1929 a touché tout particulièrement l'Allemagne et l'Autriche. Les banques faisaient faillite, les entreprises fermaient leurs portes, il n'y avait pratiquement plus de moyens de travailler. Et c'est alors que mon père, fier de son expérience sur le marché français, et constatant que la France était beaucoup moins touchée que l'Autriche par la crise. La France n'a connu la véritable crise qu'avec un retard de 2-3 ans, vers 1931-32. Donc mon père a pensé que le mieux serait d'aller s'installer en France, et en particulier dans une région française parlant l'allemand, c'est-à-dire en Alsace. Et c'est comme ça que mes parents et ma sœur ont déménagé en 1930 à Strasbourg, où mon père a créé une petite affaire qui, dès le départ, a relativement bien marché. Ma sœur, qui avait 6 ans à ce moment-là, a commencé sa scolarité en langue française à Strasbourg. Et mon père réussissait dans ses affaires. Ma mère, par contre, ne s'est jamais bien acclimatée à Strasbourg et a gardé une nostalgie de Vienne qui était assez forte. Un an et demi plus tard, 1931, mon père reçoit une lettre d'un ami de la famille de Vienne, lui disant: voilà, j'ai un fils qui est en âge maintenant de commencer à travailler, il n'a aucune expérience, j'ai du capital à investir, je voudrais créer une entreprise pour lui, mais en association avec quelqu'un qui a une expérience professionnelle. Je vous propose, revenez à Vienne et on fondera une entreprise où vous serez l'associé de mon fils. Mon père a hésité, mais ma mère a tout de suite sauté sur l'occasion. Elle a insisté pour qu'il accepte. Et c'est ainsi que les trois, mon père, ma mère et ma sœur, sont repartis à Vienne en 1931. Ce séjour de 18 mois à Strasbourg nous aura plus tard sauvé la vie, comme vous le verrez dans la suite de mon exposé. Donc la famille retourne à Vienne en 1931. Cette nouvelle entreprise en association démarre et démarre relativement bien. Il faut vous dire que, suite au démantèlement de l'Empire austro-hongrois, s'est développé au sein de cette petite Autriche, le seul pays de l'ancien Empire qui était de langue allemande, il s'est développé un mouvement important réclamant le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne, qui était quand même un pays beaucoup plus grand et plus puissant. En Allemagne, entre-temps, s'est commencé à se développer le parti nazi, mené par Hitler, et les nazis, et Hitler a pris le pouvoir en Allemagne en 1933. À partir de 1933, la plupart des Autrichiens partisans du rattachement à l'Allemagne se sont trouvés adeptes du parti nazi, c'est-à-dire le parti d'extrême droite, raciste et antisémite. Mais ils étaient quand même encore en minorité en Autriche. L'Autriche avait également d'autres problèmes sociaux. C'était un pays politiquement instable. Mais il faut savoir que à cette époque-là, l'Italie était dirigée par un régime fasciste, le régime de Mussolini, que Mussolini, tout en étant fasciste, tout en étant politiquement très, très proche des nazis, le racisme en moins, Mussolini ne tenait pas tellement à avoir une frontière commune avec l'Allemagne nazie. Donc Mussolini s'est érigé en protecteur de l'indépendance de l'Autriche, qui était un état tampon entre l'Italie et l'Allemagne. Les années passèrent. En 1937, l'Italie, après avoir été exclue de la Société des Nations, s'est rapprochée de l'Allemagne puisqu'elle n'avait plus d'autres amis. Hitler et Mussolini ont fraternisé, et du coup, l'espèce de protectorat exercé par l'Italie sur l'Autriche avait disparu. Et l'Autriche a commencé à être un pays d'émeute parfois sanglante, entre les partisans de l'indépendance et les partisans du rattachement à l'Allemagne nazie. Ces émeutes ont même atteint des sommets, puisqu'en 1937, le chancelier d'Autriche, chancelier Dollfuss, a été enfermé dans la chancellerie par des émeutiers nazis et finalement assassiné par eux. L'État de droit a repris ses droits qu'un cas. Un nouveau chancelier, le chancelier Schuschnigg, a été nommé. Quand je dis chancelier, le chancelier en Autriche, comme en Allemagne, c'est l'équivalent du Premier ministre. Donc le chancelier Schuschnigg a repris les rênes en Autriche, non sans mal, et les groupuscules pro-nazis faisaient de plus en plus de bruit et provoquaient de plus en plus d'émeutes. En 1938, le chancelier Schuschnigg, pour en finir avec tout cela, décida d'organiser un référendum pour ou contre le rattachement à l'Allemagne. D'après tous les sondages et tout, l'indépendance de l'Autriche devait, en principe, résulter du résultat de ce référendum. Le référendum était fixé pour mars 1938. Une semaine avant la date fixée pour le référendum, les nazis firent un coup d'État pour prendre le pouvoir en Autriche, synchronisé avec les Allemands, puisque le même jour, les armées allemandes traversaient la frontière et envahissaient l'Autriche, et que dès le lendemain, Hitler venait parader dans les rues de Vienne. Il s'est passé à ce moment-là un phénomène extraordinaire, c'est que l'immense majorité des Autrichiens se sont trouvés du jour au lendemain de fanatiques nazis. Vous voyez ici le défilé d'Hitler à Vienne sous les hurrahs et les bravos de la populace. Les choses ont changé du jour au lendemain. Mon père, qui avait l'habitude tous les matins, en allant au bureau, de s'arrêter dans un café pour y boire un café, s'est vu refuser d'être servi parce qu'il était juif. Les brimades, les extorsions de fonds dont ont été victimes les juifs, du jour au lendemain, ont été quelque chose d'extraordinaire, de terrible. On allait chercher des émeutiers, des terroristes, si on veut, qui allaient chercher des juifs dans leur appartement, les forçaient à descendre dans la rue et à nettoyer le trottoir avec leurs brosses à dents. Des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Comment ça s'est passé? Très vite a eu commencé l'expulsion des juifs autrichiens. Je vous laisse lire le texte. Les SS ont ouvert à Vienne un bureau central pour l'immigration juive dirigé par l'Untersturmführer Adolf Eichmann. Vous avez probablement entendu parler d'Adolf Eichmann, qui a été bien plus tard jugé en Israël. Les candidats à l'émigration devaient régler la taxe d'émigration et une taxe juive, abandonner leur logement, donner pouvoir à leur banque de disposer de leurs biens au profit du régime et ne partir qu'avec leurs seuls effets personnels. On leur donnait un passeport qu'ils devaient utiliser pour quitter le pays dans la quinzaine, sous peine d'être internés dans un camp de concentration. Avant même que ces lois n'entrent en vigueur, mes parents ont tout de suite décidé qu'il faut absolument quitter le pays. Mon père était déjà à l'époque un sioniste convaincu. Il faut vous dire que Israël n'existait pas à l'époque, mais le pays qui s'appelait alors la Palestine était sous administration britannique Et il y avait déjà plusieurs centaines de milliers de Juifs, surtout venus d'Europe de l'Est, qui étaient, y avaient émigré et s'étaient installés en Palestine et avaient constitué déjà une communauté quasi étatique. Donc l'idée de mes parents était de partir en Palestine, où une de mes tantes et mes grands-parents étaient déjà partis.
Donc je me permets, le départ en Palestine, hein, c'est la notion de sionisme peut-être qu'il faut évoquer.
Le
Je sais pas
sionisme,
si tout le monde voit ce que c'est que le
c'est
sionisme.
l'idée que le seul moyen pour les Juifs d'échapper aux persécutions qu'ils subissaient depuis des siècles un peu partout dans le monde, c'était d'avoir leur pays où ils seraient majoritaires. Leur pays qui est le pays des ancêtres du peuple juif, c'est-à-dire la Palestine. Donc un mouvement d'émigration vers la Palestine a débuté à partir de l'Europe de l'Est dans les années 1870-1880, et il en est venu des vagues successives. Au fur et à mesure des pogroms et des persécutions, il y avait chaque fois une nouvelle vague de Juifs qui partaient. Et comme la Palestine était, de par la décision de la Société des Nations, elle avait été mise sous mandat britannique, elle avait été détachée de l'ancien empire ottoman qui avait été démantelé après la Première Guerre mondiale. Donc la Palestine était sous mandat britannique et les Britanniques géraient le pays, où il y avait donc une population arabe indigène et plusieurs centaines de milliers de Juifs déjà immigrés. Ma tante Betty, une des sœurs de mon père, y avait émigré en 1935. Elle avait fait venir ses parents en 1938. Mais les Britanniques avaient entre-temps émis ce qu'ils appelaient un livre blanc, selon lequel l'immigration juive en Palestine était limitée à un nombre très faible, je crois que c'était 50 000 par an, même non, 50 000 en 10 ans, et que ne pouvaient émigrer que les gens qui soit avaient une raison particulière, soit pouvaient arguer d'un capital suffisant à investir dans le pays pour promouvoir l'économie du pays. Or, mon père avait, de par son activité professionnelle, un certain nombre de clients en France qui lui devaient de l'argent. L'idée était donc, on va partir en France, on va récupérer nos créances, et avec cet argent, on va aller dans un consulat britannique et demander un visa pour la Palestine. C'est ainsi que mes parents et ma sœur ont pu partir dès juillet 1938, partir à Paris. Nos meubles ont été mis dans un conteneur, on appelait ça un cadre à l'époque, un conteneur qui a été envoyé directement chez un transitaire à Trieste. Trieste est un port italien sur l'Adriatique, puisque l'idée était, dès qu'on aura le visa pour aller en Palestine, on donnera ordre d'expédier nos meubles directement dans le pays. Voilà donc mes parents et ma sœur à Paris, entrés en France en simple visiteur, je ne dirais pas touriste, mais c'est à peu près la même chose, sans permis de travail, sans permis de séjour permanent. Mon oncle, donc le frère aîné de ma mère, sa femme et sa fille nous ont suivis sur le même chemin. Nous sommes retrouvés à Paris, mon père courant ses clients et les banques pour essayer de récupérer l'argent qu'on lui devait. Et constatant que ce n'était pas si facile que ça. D'abord, les gens n'étaient pas pressés de payer leurs dettes. Ensuite, n'étant pas résident en France, mon père ne pouvait pas ouvrir un compte en banque en France. Il n'avait donc pas de compte sur lequel il pouvait toucher son argent. Ça a été la croix et la bannière pendant des mois et des mois, mon père courant de l'un à l'autre pour essayer de récupérer cet argent. Au bout de quelques temps, mes parents se sont rendus compte que l'espoir de partir en Palestine s'amenuisait. Donc ils ont donné ordre au transiteur de Trieste de renvoyer le conteneur à Paris, où il a été stocké dans un garde-meuble à Paris, près de la gare de Lyon. La vie continue dans un provisoire et l'indécision permanente. 1939, nous partons pour quelques jours en vacances en été, d'été en Normandie, et c'est là que nous rejoint la nouvelle de l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, le 1er septembre 1939. Immédiatement, nous rentrons tous à Paris. Mon oncle, qui avait pris en 1919 la nationalité autrichienne, se voit arrêté et interné par les autorités françaises comme citoyen d'une puissance ennemie. Il a fui les nazis et il se retrouve interné comme citoyen d'une puissance ennemie. Donc il restait mes parents, ma soeur, ma tante, ma cousine et moi. Première initiative, essayer de partir vers le sud, le plus loin possible du front, le plus près possible d'un port d'où on pourrait partir quelque part outre-mer. Comment, avec le dérèglement des liaisons ferroviaires, comment nous nous sommes retrouvés à Périgueux, en Dordogne, je ne saurais le dire. Périgueux se trouve ici. Voyez. Mais en tout cas, nous débarquons d'un train à Périgueux, et dans la gare de Périgueux, mes parents rencontrent des amis qu'ils avaient connus à Strasbourg en 1930-31, qui leur expliquent que dès le début de la guerre, les Alsaciens qui voulaient fuir la zone des combats étaient invités à trouver refuge en Dordogne et dans le Bordelais, région où il y avait des capacités de logement meilleures qu'ailleurs, et donc il y avait toute une colonie d'Alsaciens s'était installée à Périgueux. Donc mes parents les rencontrent et eux leur disent: mais vous ne savez pas où aller, vous n'avez pas d'objectif précis, ici nous sommes loin des combats, vous êtes parmi des amis, arrêtez-vous donc à Périgueux et installez-vous en attendant de voir ce que les choses vont devenir. Et c'est comme ça que nous nous sommes installés à Périgueux, nous avons trouvé un petit appartement meublé, allée de Tourny à Périgueux, où nous nous sommes installés, et surtout, ça permettait à ma tante et à ma cousine d'attendre de voir si leur mari et père allaient être libérés. Le dit oncle Karl, qui avait été interné par les autorités françaises dans un camp à Fougères, dans le nord de la Bretagne, s'est retrouvé en 1940, rattrapé par les armées allemandes qui envahissaient le nord de la France, et libéré par les Allemands. Donc, enfermé par les Français, libéré par les Allemands, voilà un des paradoxes. Mon oncle nous a rejoints à Périgueux, malheureusement dans un état de délabrement physique assez avancé. Il a attrapé peu après une pneumonie et il en est mort au bout d'une dizaine de jours. Revenons sur les événements. Donc, de septembre 39 jusqu'à avril 1940, il ne s'est rien passé le long du front franco-allemand. les deux armées étaient en chien de faïence face à face, sans qu'il y ait de combat. Les combats se déroulaient en dehors de cette zone-là, notamment en Norvège, où les Français et les Britanniques combattaient les Allemands qui avaient envahi la Norvège. En mai 1940, brusquement, les armées allemandes ont envahi la Belgique et les Pays-Bas, qui étaient pourtant déclarés pays neutres. Et ce qui a amené le haut commandement français et les hauts commandements alliés français et anglais à envoyer leurs meilleures troupes au secours de la Belgique. Et les Allemands en ont profité pour percer dans les Ardennes et pour contourner les armées franco-anglaises et foncer vers les côtes de la Manche. Vous avez tous entendu parler du débâcle qu'a été cette campagne de 1940. Très vite, les Français et les Anglais ont été débordés. Les Anglais se sont qu'un cas rembarqués à Dunkerque, heureusement, ce qui a permis à l'Angleterre de sauver l'essentiel de ses forces armées et de tenir le coup pour la suite des combats. Les Français partaient en débandade. Paris a été très vite occupé par les Allemands. Le gouvernement français s'est réfugié d'abord à Tours, puis à Bordeaux. La débâcle militaire était de plus en plus grande. Le gouvernement était dirigé à l'époque par Paul Reynaud. Et Paul Reynaud était partisan, puisqu'on ne pouvait plus résister militairement. Il était partisan de rapatrier le gouvernement et l'Assemblée et le président en Afrique du Nord, puisque l'Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, à l'époque, étaient sous domination française. Donc l'idée était de rapatrier tous les organes du pouvoir en Afrique du Nord et de reprendre les combats dès qu'on pourrait, en abandonnant pour le moment le territoire français à l'invasion allemande. Ça, c'était le point de vue de Reynaud, qui avait dans son gouvernement, entre autres, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, qui avait déjà près de 90 ans à l'époque, et qui, lui, était partisan de demander l'armistice aux Allemands et d'arrêter les combats, d'arrêter la guerre. Reynaud a été obligé de démissionner. Pétain a été nommé enfin, à l'époque, ça ne s'appelait pas Premier ministre, ça s'appelait président du Conseil. Il a constitué un gouvernement et a immédiatement demandé l'armistice aux Allemands. Cet armistice a été signé à Retonde le 22 juin 1940. Un armistice qui était léonin, puisque, en vertu de cet armistice, la France était divisée en deux. Tout ce que vous voyez ici dans différentes nuances de rouge devenait zone d'occupation allemande, donc occupée et administrée par l'armée allemande, avec l'administration française subordonnée à l'administration militaire allemande. Et le sud, pompeusement dénommé zone libre, restant sous l'autorité du gouvernement français. Le gouvernement français a donc dû quitter Bordeaux pour aller s'installer à Vichy, à peu près ici. Et là, à la surprise générale, il s'est avéré que le maréchal Pétain voulait profiter ou a profité de cette débâcle et de cette catastrophe pour mettre fin au régime républicain, pour dissoudre l'Assemblée, se faire donner auparavant les pleins pouvoirs, pour diriger la France dans un régime autoritaire baptisé l'État français. Pétain, qui était certes, je lui concède, un patriote français, mais politiquement un antidémocrate, appelons ça un fasciste, avec des sympathies pour les idées nazies. L'armistice a été signé en juin 1940. Je signale qu'à ce moment-là, l'un des ministres du gouvernement Reynaud, le général de Gaulle, est parti en Angleterre et, par son appel du 18 juin 1940, a appelé le peuple français à ne pas obéir au gouvernement de Pétain et à s'organiser pour la résistance contre l'envahisseur nazi. Donc Pétain, après s'être fait donner les pleins pouvoirs, immédiatement en octobre 1940, a d'une part obtenu une entrevue avec Hitler sur le territoire français à Montoire, c'est dans le Cher, je crois, non, pas dans le Cher, je ne sais plus, mais enfin, c'est dans la région centre. Hitler et Pétain se sont serrés la main. Cette poignée de main entre Hitler et Pétain sera historique et comme étant la honte de la France, décidant d'une collaboration entre les deux pays, la France abandonnant son allié britannique, collaborant avec l'Allemagne. Au cours de ce même mois d'octobre 1940, le gouvernement Pétain édictait les premières lois anti-juives françaises, le statut des Juifs. Ce statut des Juifs de 1940 excluait les Juifs de la fonction publique, de l'enseignement, du commandement militaire, des professions liées à la justice, au journalisme, au théâtre, à la radio et au cinéma. Et il leur interdisait tout emploi dans les entreprises recevant des fonds publics. Autrement dit, les Juifs français, il y avait à l'époque environ 250 000 Juifs au total en France, perdaient leur emploi, perdaient leur gagne-pain et devenaient des citoyens de seconde zone. Les naturalisations qui avaient été prononcées dans les années 30 furent rétroactivement annulées. Donc des Juifs qui étaient citoyens français se retrouvaient apatrides. Enfin, ça a été du jour au lendemain quelque chose de vraiment affreux. D'autant plus affreux que beaucoup de Juifs, comme nous d'ailleurs, s'étaient réfugiés en France comme étant le pays de la liberté et le pays où en principe on ne les persécutait pas. Nous vivions comme nous pouvions dans cette zone libre à Périgueux. Comme mon père ne pouvait toujours pas travailler parce qu'il n'avait pas de permis de travail, il s'occupait comme il pouvait. Tout naturellement, il s'est informé pour savoir s'il y avait des gens de la profession du bois dans la région. C'est ainsi qu'il a découvert qu'il y avait un chantier de bois important à Périgueux, dirigé par un monsieur Rouleau. Il est allé le voir et, en tant que confrères, se sont vite liés d'amitié. Et un jour, monsieur Rouleau dit à mon père: mais écoutez, puisque vous n'avez rien à faire, vous me dites que vous savez jouer au bridge, venez donc, accompagnez-moi dans mon club de bridge, au moins vous passerez quelques soirées agréables. Ce que fit mon père, Et il s'est vu attribuer comme partenaire au bridge un certain monsieur Legge, chef du service des étrangers à la préfecture de la Dordogne. Et mon père et monsieur Legge se sont liés d'amitié. Vous verrez quelle importance cela aura eu par la suite. Donc nous vivons comme nous pouvons. Mon oncle était mort. Ma mère a eu sa première crise cardiaque en 1940. Je ne l'ai plus connue en bonne santé jusqu'à sa mort. D'une grave malformation cardiaque. Mon père n'avait s'occupait comme il pouvait dans la communauté juive de Périgueux. Et il allait de temps en temps donc jouer au bridge avec M. Rouleau et M. Legge. Et un jour, mon père reçoit une lettre du garde-meuble à Paris lui annonçant que les autorités allemandes ont confisqué le conteneur avec tous nos biens. Jouant de culot, mon père écrit une belle lettre à la Kommandantur militaire allemande de Paris pour réclamer des explications et se voit répondre dans les 48 heures, sur papier en tête avec tous les cachets et signatures imaginables, que effectivement nos biens ont été confisqués comme étant des biens juifs et qu'en vertu de tel et tel décret du Reich, ces biens étaient, cette confiscation était définitive et irrévocable. Cette lettre que mon père a reçue en 1940, il l'a gardée jusque bien après la guerre, ce qui lui a permis, après la guerre, de réclamer un dédommagement aux autorités allemandes d'après-guerre, mais ce dédommagement a été minime puisque, compte tenu de l'inflation, ça ne représentait plus grand-chose. Nous sommes donc à Périgueux, et dans cette année 1941, voilà à quoi ressemblait l'Europe. En brun, l'Allemagne et les territoires annexés par l'Allemagne. En beige foncé, les territoires occupés par l'Allemagne. En beige plus clair, les régimes alliés ou associés à l'Allemagne, dont le régime de Vichy. En gris, les pays neutres, donc la Suède, l'Espagne, le Portugal, la Turquie et l'Irlande, et en vert, les pays du camp occidental. En Europe, il n'y avait plus que l'Angleterre et l'Islande. Et l'URSS. Donc voilà à quoi ressemblait l'Europe en 1942. Nous sommes donc à Périgueux en 1940-41. Fin 41, on fait comprendre à mon père que notre présence à Périgueux n'est pas très souhaitable, qu'il serait bon d'aller s'installer dans un endroit plus discret. Mon père demande conseil à Monsieur Rouleau, le marchand de bois, qui le met en contact avec la châtelaine d'un petit bourg, enfin d'une petite ville à 50 km de Périgueux, une ville qui s'appelle Lille, Lisle, à ne pas confondre avec Lille dans le Nord. Et nous voilà partis à Lille. J'oubliais de dire que pendant que nous étions à Périgueux, ma sœur et ma cousine, qui étaient du même âge à un an près, fréquentaient le lycée de jeunes filles de Périgueux, où moi-même j'allais au jardin d'enfance, ce qu'on appelle aujourd'hui la maternelle, J'avais 4 ans. J'allais donc en maternelle au lycée Périgueux. Ma sœur, ma cousine étaient respectivement en troisième et en seconde. Quand nous sommes partis nous installer à Lille, il n'était plus question pour ma sœur et ma cousine de continuer leurs études, puisqu'il n'y avait pas de lycée dans la région. Ma sœur, qui a vécu jusqu'à l'âge de 91 ans, n'a donc pas eu plus de formation scolaire que la troisième. Ça n'a pas empêché d'avoir une vie très riche au point de vue littéraire et d'avoir travaillé à la fin de sa vie comme lectrice pour sa fille, productrice de télévision. Donc nous voilà installés à Lille. Mon père, ma mère, ma sœur, ma tante, ma cousine et moi, dans ce qu'on appelle le Château-Haut à Lille. Voilà à quoi ressemble ce château, ce soi-disant château, entre guillemets, mais que j'ai photographié à l'occasion d'une visite que j'ai faite dans les lieux dans les années 90. Et nous habitions à l'étage. Et la propriétaire habitait au rez-de-chaussée, puisque à l'intérieur c'était en pente et l'entrée était à ce niveau-là. La propriétaire, ce qu'on appelait une vieille fille, enfin, une dame non mariée de la cinquantaine, charmante, qui nous a accueillis à bras ouverts, et nous nous sommes installés là. Et c'est à Périgueux, et c'est à Lille, pardon, à l'âge de 6 ans, que j'ai commencé ma scolarité, que j'ai appris à lire et à écrire à l'école communale de Lille. Nous étions installés là, les pénuries devenaient de plus en plus grandes, parce que je dois dire qu'en vertu de l'accord d'armistice de 1940, la France s'était engagée à livrer à l'Allemagne des milliards, pour la valeur de milliards, de nourriture et de produits industriels pour nourrir les Allemands et pour équiper les armées allemandes. Il y avait un rationnement, on n'avait rien à manger, d'autant plus que 2 millions de Français qui avaient été mobilisés se sont retrouvés prisonniers en Allemagne et ne pouvaient pas travailler les champs. Mon père s'est procuré un vélo et a commencé à faire la tournée des fermes autour de Lille pour essayer de trouver tantôt un kilo de pommes de terre, tantôt une douzaine d'œufs, etc. C'est comme ça qu'on s'approvisionnait comme on pouvait. Un jour, au miracle, mon père est revenu de sa tournée avec deux oies que ma mère a immédiatement fait confire. Mis dans des bocaux avec de la graisse d'oie. Ces deux oies ont constitué les seules protéines que nous ayons eu à consommer pendant un hiver entier. Quand je rentrais de l'école, j'avais droit à une tartine de gros pain avec de la graisse d'oie. C'était un délice pour moi. Mais c'est de cela qu'on vivait. Bon, la vie continuait comme on pouvait. Pour vivre, mon père vendait un à un les bijoux de ma mère. Heureusement qu'elle avait des bijoux. Vous imaginez que ce n'était pas dans les meilleures conditions et qu'il n'en obtenait pas grand-chose. Mais enfin, on arrivait à tenir le coup à peu près. En 1942, à l'été 42, mes parents ont constaté que j'avais des difficultés de respiration. J'avais 6 ans à l'époque. On m'amène chez le médecin, qui diagnostique des végétations nasales et préconise une opération à l'hôpital de Périgueux. Mes parents prennent rendez-vous à l'hôpital de Périgueux pour le 25 août 42. Mes parents devaient m'amener à l'hôpital, je devais être hospitalisé. Comme ils n'avaient pas de logement à Périgueux, ils retournaient par le car à Lille et devaient me retrouver le lendemain matin après l'opération à l'hôpital de Périgueux. Dites, ne crains rien, on va t'anesthésier, t'endormir, et après on va t'opérer, et quand tu te réveilleras, nous serons là. Mes parents retournent à Lille, et dans la nuit, la gendarmerie française effectue une rafle des Juifs, et vient se présenter donc au Châteauroux, et arrête mes parents, ma sœur, ma tante et ma cousine, qui sont emmenés dans un camp de triage à Saint-Pardoux-la-Rivière, près de Périgueux, en pleine nuit, sans avoir eu le temps de se retourner. Mon père avait, juste au dernier moment, mis dans une serviette tous les papiers d'état civil de la famille. Il se retrouve à Saint-Pardoux-la-Rivière, et là, il se retrouve nez à nez avec M. Legge, son ancien partenaire de bridge, qui lui explique, eh bien voilà, nous avons reçu des instructions du gouvernement d'arrêter tous les Juifs de nationalité étrangère entrés en France depuis 1936, qui doivent être livrés aux autorités allemandes. Il y avait là plusieurs centaines de Juifs qui venaient d'être raflés dans la région de la Dordogne. Et mon père demande à M. Legge, mais est-ce qu'il y a moyen de contourner cela? M. Legge lui répond, aidez-moi à vous aider. Et là, mon père a une idée de génie. Il sort de sa serviette les anciens permis de séjour de Strasbourg de 1930-31, qui étaient périmés, et demande à M. Legge, est-ce qu'avec ça, on peut faire quelque chose? Ils ont monté un scénario selon lequel la famille vivait à Strasbourg depuis 1930, que nous nous sommes retournés à Vienne en 1931 que pour soigner mon grand-père malade, et que nous sommes retournés à Strasbourg, puis à Paris en 1938. La fable a été présentée à la commission qui a statué qu'effectivement nous n'entrions pas dans le cadre des instructions de Vichy, du décret de Vichy, et mes parents et ma sœur ont été libérés. Malheureusement, cette libération n'a pas pu être étendue à ma tante et à ma cousine, dont nous avons su par la suite qu'elles sont parties le lendemain à Drancy, près de Paris, qui était un grand camp de triage, et qu'elles ont fait partie quelques semaines après du convoi numéro 32 pour Auschwitz, où elles ont été gazées immédiatement. Donc voilà ce qui nous avait pendu au nez et où nous avons été sauvés par un miracle. Moi, pendant ce temps, j'avais été opéré, je hurlais à réclamer mes parents à l'hôpital, j'étais intenable. Des connaissances de mes parents, dont M. Rouleau, ayant eu vent de ce qui s'était passé, avaient déjà commencé à me chercher une famille d'accueil au cas où mes parents ne seraient pas libérés. Même l'évêque de Périgueux s'en est occupé. Lorsqu'au bout de 3 jours, mes parents, libérés par miracle du camp de Saint-Pardoux, sont arrivés à l'hôpital de Périgueux. Je revois encore cette scène, mais vraiment comme si c'était hier. J'avais 6 ans, j'ai J'étais dans mon lit d'hôpital. La porte de ma chambre était au fond à gauche. J'ai vu la porte s'ouvrir et mes parents apparaître. J'ai bondi dans les bras de ma mère. Il n'y avait plus moyen de m'en détacher. On m'a enroulé dans une couverture avec elle et on est parti comme ça. Et nous voilà repartis par le car à Lille. Mes parents, ma sœur et moi, sans ma tante et ma cousine. Vous dire que c'était dans la joie serait un délicat euphémisme. Donc, la vie devenait de plus en plus précaire pour nous. Ça, c'était en août 1942. En novembre 1942, les Anglo-Américains ont débarqué en Afrique du Nord et en quelques semaines ont conquis le Maroc, l'Algérie et une grande partie de la Tunisie, qui du coup était libérée de l'emprise de Vichy. Excusez-moi. Dès la nouvelle de ce débarquement allié en Afrique du Nord, et en violation de l'accord d'armistice, les armées allemandes ont traversé la ligne d'armistice et ont occupé la totalité de la France. Les Italiens, qui étaient les alliés de l'Allemagne, en ont profité pour réclamer à leurs amis allemands une zone d'occupation, et se sont retrouvés à la tête d'une zone d'occupation qui allait du lac Léman à la Méditerranée, pratiquement toute la région alpine. Je ne sais pas comment l'information circulait, mais très vite, mes parents ont appris qu'en zone d'occupation italienne, non seulement on n'arrêtait pas les Juifs, mais que les autorités militaires italiennes protégeaient les Juifs contre la gendarmerie française. Donc, l'idée a été tout de suite partir en zone d'occupation italienne, ce qui n'était pas facile. Il y avait toute la France à traverser avec des contrôles, etc. Le frère de notre logeuse, de notre châtelaine, était le docteur Fargeau, maire de Périgueux, maire nommé par le gouvernement de Vichy, donc réputé collabo. Ça n'a pas empêché de délivrer sans broncher à ma mère un certificat médical lui prescrivant d'urgence une cure à Aix-les-Bains, en Savoie. La gouvernante de notre logeuse avait un frère gendarme qui nous a préparé tous les papiers pour la traversée de la France et qui nous a recommandé, quand vous quitterez Lille, faites ça discrètement, de préférence une nuit où je serai de garde. Et un jour, il nous annonce, telle nuit je vais être de garde, donc nous nous préparons avec nos quelques ballots à quitter Lille pour partir vers l'Est. Et mes parents me prescrivent surtout, n'en parle à personne, nous partons demain, mais il faut pas le dire. Moi, j'étais un gosse de 6 ans. Dans l'après-midi, je joue avec un copain et je lui dis, tiens, tel jouet que je t'ai prêté, il faudrait que tu me le rendes parce que nous partons. Le gosse va le raconter à sa mère, qui, toute curieuse, vient voir mes parents. Mes parents se confondent en dénégation en disant que le gosse n'a rien compris. Nous faisons le grand nettoyage, mais il n'est pas question de partir. Et le soir, j'ai eu droit, entre quatre yeux, à un débriefing dont je me souviens encore aujourd'hui. Je n'avais que 6 ans. Je crois que c'est ce jour-là, pour la première fois, que j'ai réalisé ce que c'était, que nous étions en danger et ce qu'était le danger. Bon, dans la nuit suivante, nous voilà partis, d'abord en car à Périgueux, puis en train de Périgueux à Lyon. À Lyon, il fallait changer de train et il y avait pratiquement. On arrivait le matin et la correspondance c'était le soir. Donc nous voilà une journée entière à Lyon. Les bagages à la consigne, on se promène dans les rues. Il y avait plein d'uniformes allemands un peu partout. On se sentait vraiment pas à l'aise et en sûreté. D'abord, pour donner le change, nous arrêtons dans un restaurant, nous mangeons un casse-croûte. Et puis, il vient l'idée à mon père, on va aller au cinéma. Il faut dire que les cinémas en France, à l'époque, étaient ce qu'on appelait permanents. C'est-à-dire, les séances, enfin, les cinémas ouvraient vers 14h jusqu'à 23h. Oui. Ils jouaient le même film en boucle toute la journée et on pouvait entrer quand on voulait et sortir quand on voulait. Et c'est ainsi que toute la famille s'est réfugiée dans un cinéma pour être dans le noir, pour ne pas être voyant et a passé toute la journée dans ce cinéma. Je serais incapable de vous dire quel film nous avons vu. Je crois que même les adultes ne se sont jamais souvenus du film. Ce qui était important, c'était d'être bien, bien planqué. Le soir, nous prenons enfin le train pour Aix-les-Bains et nous arrivons à Aix-les-Bains vers 11h du soir. Nous descendons dans le premier hôtel en face de la gare. Et le lendemain matin, mon père descend voir le portier de l'hôtel et commence à se renseigner sur comment se passent les choses, où est ceci, que fait cela, etc. Et il apprend que le général italien commandant la zone a ses bureaux dans le même hôtel à l'étage au-dessus. Ni une ni deux, il monte à l'étage, il demande audience au général, qui le reçoit, fort courtoisement, et il lui dit, franchement, notre situation, une famille juive étrangère, venu se réfugier en France, qui a fui la zone d'occupation allemande pour se mettre sous autorité italienne en espérant que c'est une bonne décision. Et le général lui répond, monsieur, tant que je serai ici, il ne vous arrivera rien, ni à vous, ni à votre famille. Ceci dit, il faut que vous trouviez un point de chute. Je vous signale, il y a quelques kilomètres d'ici, une autre station thermale, Bride-les-Bains, une station spécialisée dans le traitement de l'obésité, dont les activités thermales sont arrêtées. Les autorités italiennes ont réquisitionné les capacités hôtelières et de nombreux juifs sont déjà venus s'installer là, au moins pour être à l'abri. Et voilà, nous voilà repartis d'Aix-les-Bains à Bride-les-Bains et nous arrivons dans cette petite station thermale qui devait avoir, en tant qu'habitant permanent, à tout casser 2 ou 3 000 habitants, où se trouvaient réfugiés 400 familles juives. Quelque chose d'incroyable. On se retrouvait presque dans une ville juive. Et tout le monde très heureux. Il y avait une garnison de bersaglieri italiens qui était installée à l'emplacement de la caserne de gendarmerie, qui était tout à fait bon enfant. Nous avons vite trouvé un appartement meublé. On m'a mis à l'école. Les enfants de l'école, moi compris, tous les jours, en sortant de l'école, nous allions à la caserne des Bersaglieri nous faire offrir des bonbons et du chocolat. C'était le paradis terrestre. On se demandait comment par quel miracle nous avions trouvé cet îlot de tranquillité dans l'Europe en feu. Seule Annie Croche, les difficultés d'alimentation, les pénuries de nourriture qui étaient encore pires que ce que nous avions connu avant. Quelque temps plus tard, on me diagnostique une inflammation des amygdales et il faut m'opérer. Pas de clinique ou d'hôpital à Brigue-les-Bains. Mon père m'emmène à Aix-les-Bains, où nous étions arrêtés quelques mois plus tôt, pour me faire opérer, opération en ambulatoire. On me ramène à l'hôtel après l'opération, avec prescription de n'ingurgiter que des aliments pâteux ou liquides. Mon père va voir son copain, le portier de l'hôtel, et me commande une purée de pommes de terre à m'amener dans la chambre. Et on m'a amené une assiette de purée de pommes de terre avec sur le dessus une noix de beurre fondue. Je peux dire que l'odeur et le goût de ce beurre, je n'en avais plus mangé depuis des mois et des mois, je les ai encore dans la bouche. C'est vous dire à quel point nous étions en pénurie. Bon, cet épisode s'est vite terminé, nous sommes retournés à Bride. Tant que les Italiens étaient là, c'était parfait. Et voilà, en juillet 43, en Italie, Mussolini a été renversé. Le gouvernement italien a tourné casaque, s'est remis contre... problème là. Ah voilà, ça y est. C'est remis contre les Allemands alliés et amis avec les Alliés. Du coup, les autorités, les militaires italiens ont évacué la zone d'occupation italienne en France, qui est devenue zone d'occupation allemande comme le reste. Seule différence, c'est qu'entre-temps, la guerre en Russie avait accaparé des millions et des millions d'Allemands, de militaires allemands, que l'armée allemande n'avait plus les effectifs suffisants pour avoir des garnisons partout, et que donc on s'est retrouvé à Brigue-les-Bains, dans un no man's land, qui était théoriquement zone d'occupation allemande, mais sans présence d'Allemands, sans la présence physique d'Allemands. La garnison allemande la plus proche était à Moutier, à 6 km de là. Nous avons très vite compris que la chute de Mussolini n'était pas une bonne nouvelle. Mais enfin, ça se passait en juillet 43, et nous continuions à vivre dans ce Brigue-les-Bains, dans cette espèce de ghetto qui était devenu Brigue-les-Bains, en nous demandant de quoi demain sera fait. Ça, c'était en juillet. Le 1er septembre, nous voyons arriver par la route, venant de Moutier, deux officiers allemands à pied, en grande tenue, qui arrivent à Bride, qui avaient fait leur footing, donc de Moutier à Bride, qui arrivent à Bride, et demandent à voir le maire. Ils entrent à la mairie, tout le monde se demande ce qu'ils viennent faire là, ils restent une petite demi-heure, et ils s'en retournent à Moutier. Et dans l'après-midi, la mairie fait placarder partout dans Bride, sur ordre des autorités allemandes d'occupation, tous les juifs, sans exception, doivent avoir quitter Bride dans les 48 heures. Aucune dérogation ne sera admise. perplexité dans toute la communauté. Où aller? Que faire? Mon père, à son habitude, avait déjà pris contact depuis quelque temps avec le propriétaire d'une scierie. Toujours cette affinité des marchands de bois. Donc une scierie dans la montagne. Monsieur Blanche. Il contacte Monsieur Blanche qui lui dit, bah, écoutez, venez dans la montagne, dans mon bled. Il y a plusieurs maisons inoccupées du fait de l'exode rural. Je vais bien trouver le moyen de vous loger. Son bled, c'était la commune des Alus. Les Alus, c'est une commune qui part d'un chef-lieu à 1400 mètres d'altitude et qui monte dans la montagne jusqu'à 1800 mètres avec des petits lieux-dits, des hamons, le long de la route. Et le dernier hameau en haut à 1800 mètres, qui à l'époque était inconnu, vous le connaissez certainement parce qu'il est devenu depuis une grande station de sport d'hiver, Méribel. Donc dans un des hameaux entre le chef-lieu des Alus et Méribel, un hameau appelé Chandon, qui comprenait en tout et pour tout 9 maisons, nous avons trouvé 2 maisons disponibles, que M. Blanche nous a trouvées. Dans l'une, un couple, M. et Mme Jacques, et dans l'autre, nous nous retrouvions, mes parents, ma sœur et moi, M. Binstock, un juif hollandais, qui avait casé sa femme et ses filles à Valence, mais qui lui-même, étant circoncis, préférait se planquer, et donc nous avait suivis à Chandon. M. Brinkman, un autre juif hollandais, célibataire, et Henri, j'ai jamais su son nom de famille, un ouvrier juif de la banlieue rouge de Paris. Tout ça dans une maison, si on peut appeler ça une maison. Voilà à quoi ressemblait cette maison. C'est là que nous sommes tous réfugiés. Alors revenons en arrière. Pourquoi cette subite expulsion des Juifs? Nous avons appris bien après la guerre, sans très bien savoir les détails de la chose, que la Gestapo, qui s'était installée à Nice pour prendre pied dans l'ancienne zone d'occupation italienne, avait eu vent de l'existence de cette communauté juive de Bride et avait décidé d'envoyer un détachement de SS pour arrêter, rafler tous les juifs de Bride-les-Bains. La chose s'est sue dans les milieux de la résistance. Quelqu'un parlant parfaitement l'allemand a téléphoné à la commandanture militaire de Moutier en se faisant passer pour l'état-major et en donnant ordre de faire évacuer Bride-les-Bains de tous les juifs car les facilités hôtelières étaient réquisitionnées pour servir de lieu de convalescence pour les soldats allemands. Et les militaires allemands exécuté l'ordre, on fait évacuer tous les juifs, et lorsque 48 heures après, les SS sont arrivés, il n'y avait plus personne. Encore un miracle extraordinaire. Donc nous voilà là-haut, à Chandon, dans ce trou perdu, toujours dans l'incertitude la plus totale sur ce que ça allait devenir. Rien à manger, plus d'argent. Finalement, ma mère et ma sœur se sont mises à faire des travaux de tricotage pour les paysans. C'était du troc. Et puis ils ont apporté leur laine qu'ils avaient filée eux-mêmes. Ma mère et ma sœur tricotaient longueur de journée des pull-overs, des chandails, des chaussettes, un peu de tout pour les paysans, en échange d'une tome, d'une douzaine d'œufs ou d'un poulet. Et c'est comme ça que nous nous nourrissions, grâce au tricotage de ma mère et de ma sœur. Mais enfin, les paysans étaient bien, bien gentils, un peu surpris, ne sachant même pas ce que c'était qu'un juif. Ils savaient certainement, du moins certains d'entre eux le savaient, mais ils ne savaient même pas à quoi ça correspondait. Et nous vivons là, comme on peut, jusqu'au jour où ma sœur, qui avait 19 ans à l'époque, commence à se plaindre de maux de ventre épouvantables, à tel point qu'elle décide d'aller consulter, et le seul médecin à des kilomètres à la ronde était le docteur Mathieu, le maire de Brigue-les-Bains. Donc elle descend à pied le sentier jusqu'à Bride. Elle va consulter le docteur Mathieu, qui diagnostique une appendicite aiguë en lui disant « il faut vous faire opérer d'urgence ». Ce sur quoi ma soeur lui dit « mais une ville où il y a un hôpital ». Oui, bien sûr, il y en a une, Valence, où je connais des gens qui pourraient s'occuper de moi. Mais pour aller à Valence, il faut prendre le train. Et dans les trains, il y a des contrôles d'identité. Réponse du docteur Mathieu. Ce sont des faux papiers qu'il vous faut, mademoiselle. Mais il fallait le dire tout de suite. Et l'après-midi même, elle partait à Valence avec une fausse carte d'identité, une carte d'alimentation, tout ce qu'il fallait. Elle a pu aller se faire opérer à Valence et revenir 3 semaines après guérie. Auparavant, nous ne savions pas que le docteur Mathieu était un résistant. Elle revient, nous continuons à vivoter comme nous pouvons. Un jour, mon père reçoit une lettre de M. Lessieux, qui avait été, avant la guerre, son agent général à Paris. M. Lessieux lui disant « Voilà, j'ai réussi à trouver votre adresse. J'ai un voyage à faire dans votre région. Je serai tel jour entre deux trains à la gare d'Albertville. J'aimerais vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez venir m'y voir ?» Mon père pèse le pour et le contre et décide, bon, on va prendre le risque. Il prend le car pour Albertville, trouve M. Lessieux sur le quai de la gare. M. Lessieux, qui n'était pas par hasard à Albertville, mais dont il a appris qu'il avait fait le voyage de Paris exprès pour le voir. M. Lessieux lui dit, écoutez, je sais dans quelle situation vous êtes, je sais que vous n'avez pas de quoi vivre, alors je suis venu vous apporter, lui remet une enveloppe avec des billets dedans, une belle somme, et lui dit, vous me rendrez ça après la guerre. Monsieur Lessieux, qui était un septuagénaire à l'époque, est malheureusement mort avant la fin de la guerre, et mon père n'a pas pu lui rendre son argent en main propre, il l'a rendu à son fils, mais il n'a jamais pu exprimer sa gratitude à M. Lys. La vie continue. Il faut vous dire que M. Binchlock, l'un de nos deux cohabitants, avec un engin précieux, un petit poste de radio qui nous permettait tous les jours d'écouter la radio anglaise, la BBC, et de savoir ce qui se passait dans le monde. Et un jour, c'était le 6 juin 1944, la BBC a annoncé le débarquement des Alliés en Normandie. Ça, c'était quelque chose que nous attendions depuis des années presque, et dont nous savions que si Le débarquement avait lieu, et s'il réussissait, c'était le commencement de la fin. Je me vois encore, je rentrais de l'école, parce que j'allais à l'école dans le hameau suivant à Nangerelle. Je rentre de l'école donc à midi, par la route en bas. Notre maison était sur les hauteurs du village, et je vois de loin ma sœur qui me fait de grands signes, en me criant, ils ont débarqué. C'était la grande joie dans toute la famille et parmi nous tous. Cette joie n'a pas duré longtemps. 4 jours après, le 10 juin 44, nous voilà réveillés à 5h du matin par des coups de canon. Immédiatement, réaction pavlovienne, branle-bas de combat, on s'habille en vitesse, on va s'enfuir dans la montagne, se réfugier dans la forêt. Donc chacun s'habille comme il peut, nous commençons à courir dans tous les sens. Mon père et Henri restent derrière pour fermer les volets. Et je me retrouve à un moment, à mi-chemin entre la maison et la forêt, en compagnie de M. Binstock, de ma mère et de ma sœur, et de notre petit chien. Quand le premier camion allemand tourne le lacet de la route et arrive en vue, ils nous aperçoivent, le camion s'arrête et on commence à nous tirer dessus. J'ai entendu les balles siffler à mes oreilles ce jour-là. C'était la seule fois de ma vie, mais je ne l'oublierai pas. Immédiatement, nous nous arrêtons, nous levons les bras. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nous sommes entourés de soldats, mitraillettes à la main, qui nous forcent à redescendre vers la route, vers le camion, où se tenait l'officier, le lieutenant, qui contrôlait les papiers. Il se trouve que parmi nous, il y avait M. Binstock, et que M. Binstock était le seul d'entre nous qui possédait des faux papiers absolument sensationnels, puisque non seulement c'était des papiers selon lesquels il était français, alsacien, et bien entendu pas juif, mais en plus qu'il avait un ordre de mission de l'organisation TOT, qui était l'intendance de l'armée allemande, pour faire des achats de marchandises pour l'armée allemande. Donc, nous sommes amenés devant l'officier. M. Binstock présente ses faux papiers. L'officier prend ma mère, ma sœur et moi pour sa famille. Je lui dis, écoutez, il n'y avait pas de raison de vous enfuir. La prochaine fois, quand les Allemands viennent, restez chez vous et ne jouez pas aux petits soldats. Derrière nous, sont amenés Monsieur et Madame Jacques, qui habitaient la maison d'à côté, qui, eux, ne possédaient pas de faux papiers et qui présentent leur permis de séjour. Ils avaient des permis de séjour, je les ai vus après. C'était des feuilles de papier A4 avec, aux quatre coins et au milieu, le tampon juif en lettres rouges. L'officier déplie le papier, le replie immédiatement pour que ces soldats ne le voient pas, et demande, Madame Jacques, que faites-vous ici ? Ah ben, nous sommes ouvriers agricoles. Ils étaient habillés pauvrement. Eh bien, rentrez chez vous. Nous n'avons rien contre vous. Nous sommes ici contre les maquisards, contre les résistants. Et nous commençons à prendre le chemin de retour vers la maison. Quand il dit « un instant, attendez », il donne un ordre, les soldats assis dans le camion s'écartent, et nous voyons M. Brinkmann menotté au milieu du camion. « Connaissez-vous ce monsieur ?» Compte tenu des circonstances, nous sommes répandus en dénégation. Non, nous ne connaissons pas. Ce monsieur a été arrêté en pleine forêt, en veste de tweed, serviette de cuir à la main, et a prétendu garder les vaches. Il n'y avait pas une vache aux environs. Nous avons su par la suite que M. Brinkmann a été emmené à Lyon et fusillé le soir même par les sbires de Barbie. Nous voilà retournés à la maison, le camion continue, la colonne allemande continue vers le haut de la montagne, et nous retournons à la maison, posant la question, où est mon père? Nous commençons à l'appeler, pas de réponse. Au bout de 5 minutes, la mort dans l'âme, ma mère lui crie, viens, ils sont partis. Et c'est à ce moment-là que nous voyons arriver mon père, hagard. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu mon père ayant perdu son sang-froid. En sortant de la maison, quand il a vu qu'il était trop tard pour se sauver, il s'est jeté dans un champ de blé. Et une sentinelle allemande est passée à 2 mètres de lui, ne l'a pas vu. Heureusement. Donc voilà, nous voilà de nouveau amputés d'un membre du groupe. Mais ça a été finalement le dernier avatar, le dernier miracle qui nous a permis d'en réchapper. Quelques semaines après, nous étions libérés par les troupes qui nous remontaient depuis le débarquement en Provence. Les Allemands sont partis. Après, ça a été la libération, retour à Périgueux d'abord, puis à Paris. C'était la fin des épreuves pour nous. Voilà, j'espère que ce récit vous a intéressé. Je vous montre quelques photos quand même. Ça, ce sont mes parents, ma sœur et moi, en 1944. Ça, c'est le groupe des rescapés. Monsieur et Madame Jacques, à gauche. Ma sœur, moi, ma mère, mon père, Monsieur Binstock et Henri. Voilà ceux qui ont réchappé de tout cela. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé.
Bravo.
Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, je vous demanderai de m'aider, comme j'ai une mauvaise ouïe et que j'ai du mal à comprendre des questions, j'aime qu'on me les répète.
Pas de questions? Ça vous a laissé...
J'ai une question. Je voudrais faire un commentaire, si tu permets.
Oui.
Là, vous avez une véritable page d'histoire vécue avec M. Nussbaum. Et je pense que vous allez vous en souvenir toute votre vie. L'histoire, quelquefois, on vous la raconte au travers des professeurs, parce que ça a été communiqué, je dirais, de professeur à professeur. Il s'agit d'une page d'histoire réelle. Monsieur Nussbaum, en face de vous, a vécu cela, une période de la guerre, quelque chose qui nous touche tous, et je suis profondément ému. Et maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Quand vous avez écouté ce récit, est-ce que vous avez eu des images dans votre tête, tout au long de ce que Monsieur Nussbaum vous a raconté?